les partages au cœur du vivant. Nous vivons dans un monde où tout va très vite. Pourtant, il suffit parfois de quelques minutes pour qu'un regard change, qu'une compréhension s'ouvre, ou simplement pour revenir à l'essentiel. Je suis Céline et j'ai créé des ailes de l'être. J'ai à cœur de créer des espaces de reconnexion à soi, aux autres et à la vie. À travers ces partages au cœur du vivant, je ne cherche pas à transmettre une vérité. J'ai simplement la joie de partager des explorations, des compréhensions et des expériences qui nourrissent mon propre chemin. Avec l'élan qu'elles puissent peut-être éclairer le tien. Je t'invite simplement à laisser résonner ces mots en toi et à observer ce qu'ils viennent mettre en mouvement. Je te souhaite une belle exploration. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à explorer cette question. Et si le problème n'était pas ta peur ? Mais le fait que tu te fermes lorsqu'elle est là. Et si le passage de la survie à la vie ne consistait pas à ne plus avoir peur, mais à apprendre à rester ouverte, ouvert, même lorsque la peur nous traverse. Pendant longtemps, j'ai moi-même oublié de vivre. J'étais perdue. Comme beaucoup de personnes que j'accompagne, je me suradaptais. J'étais très dépendante du regard des autres. Mais avec le recul, je comprends que j'étais surtout prisonnière de mon propre regard, dans la peur de mal faire, de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de prendre une mauvaise décision. Et sous le poids des injonctions, des conditionnements et de mes propres exigences, quelque chose en moi s'est peu à peu refermé. Mon cœur s'était protégé, et en se protégeant, il a fini par étouffer. Ma vie s'était alors organisée autour de la prudence, du contrôle, de l'anticipation et d'une certaine forme de perfection. De manière inconsciente, je ne vivais pas véritablement. Je cherchais surtout à éviter de souffrir. Et sans vraiment m'en rendre compte, je répétais les mêmes fonctionnements, les mêmes mécanismes de défense, les mêmes histoires. Je survivais. Peut-être que cela résonne en toi. Peut-être connais-tu toi aussi cette impression de vivre en restant enfermé dans des rôles et en ressentant des sentiments d'impuissance, de frustration, d'insatisfaction, d'avancer mais en contrôlant chacun de tes pas, de vouloir changer tout en ayant peur de ce qui pourrait arriver si tu te laissais vraiment vivre. La peur n'est pas seulement liée à un danger concret. Elle peut prendre de très nombreuses formes. La peur d'échouer, la peur de réussir, d'être jugé, d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de perdre, de déranger, la peur de ne pas être légitime, la peur de l'inconnu. Parfois, elle est très visible. Elle se manifeste par une accélération du cœur, une tension dans le ventre, une sensation d'oppression ou l'envie de fuir. Mais elle peut être aussi beaucoup plus discrète. Elle se glisse dans notre besoin de tout anticiper, dans notre difficulté à prendre une décision, dans la procrastination, dans le perfectionnisme, dans le besoin conscient ou inconscient de plaire, dans la volonté de tout maîtriser, dans l'impression qu'il faut encore attendre avant d'oser? Et bien souvent, lorsque la peur apparaît, notre premier réflexe consiste à vouloir nous en débarrasser. Nous voulons qu'elle cesse. Nous voulons retrouver rapidement un état plus agréable. Alors, nous cherchons une solution, une explication, une technique ou une pensée qui pourrait la faire disparaître. Mais que se passe-t-il lorsque nous voulons absolument ne plus avoir peur? Nous nous tendons, nous nous contractons, nous nous coupons de ce qui est là. Et intérieurement, nous envoyons un message très clair. Cette peur ne devrait pas être présente. Je ne veux pas vivre cela. Alors, quelque chose résiste en nous. Et la peur initiale est alors accompagnée d'une seconde souffrance, la lutte contre la peur. Et c'est souvent cette lutte qui nous enferme davantage que la peur elle-même. Qu'est-ce qui se joue lorsque tu te fermes? Je t'invite à repenser à une situation récente dans laquelle tu as ressenti de la peur. Peut-être devais-tu prendre la parole, faire un choix, exprimer un désaccord, commencer un nouveau projet, rencontrer quelqu'un, dire non, ou simplement affronter une situation dont tu ne connaissais pas l'issue. Que s'est-il passé alors en toi? Ton corps s'est peut-être contracté? Ton souffle est devenu plus court? Ton mental s'est mis à produire des scénarios? Et si cela se passait mal? Et si je n'y arrivais pas? Et si l'autre me rejetait? Et si je regrettais? Et si je me trompais? Etc. À cet instant, tu n'es plus vraiment en relation avec ce qui est en train de se passer. Tu es en relation avec ton mental, avec ce qu'il imagine, redoute ou anticipe. Tu quittes progressivement l'expérience directe. Tu entres dans l'histoire. Puis, plus tu cherches à échapper à cette peur, plus elle semble prendre de la place. Pourquoi? Parce que tout ce que nous refusons demande de l'énergie pour être maintenu à distance. Nous surveillons la peur, nous tentons de la contrôler. Nous organisons notre vie pour éviter de la ressentir. Et paradoxalement, elle devient le centre de notre attention. La peur prend alors la direction de notre vie. Non parce qu'elle est présente, mais parce que nous avons construit notre existence, sans en avoir conscience, bien sûr, autour de la nécessité de ne plus la ressentir, de ne pas la ressentir. Et cette mécanique fonctionne pour tout ce à quoi nous résistons, tout ce que nous refusons en termes d'émotions, de sensations, de pensées, de situations à vivre, de comportements. Nous avons appris la survie. Depuis l'enfance, nous avons construit une manière d'être au monde. De manière inconsciente, nous avons appris ce qu'il fallait faire pour être aimé, reconnu, accepté ou protégé, pour se sentir en sécurité. Certaines personnes ont appris à être sages, d'autres à être fortes, parfaites, discrètes, performantes, performants, toujours disponibles, toujours agréables, toujours sous contrôle. Ces rôles nous ont aidés à nous adapter. Ils ont eu une fonction. Ils nous ont parfois permis de traverser des situations difficiles et de trouver notre place dans notre environnement. Mais avec le temps, nous pouvons oublier qu'il s'agit de stratégie. Et nous finissons par croire que nous sommes réellement ce personnage avec ses différentes identités et ses rôles qui se jouent. La bonne élève, le gentil garçon, la personne forte qui ne demande jamais rien, la gentille fille, celle qui ne doit pas déranger, celui qui doit tout réussir, la parfaite, celle qui doit garder le contrôle pour que rien ne s'effondre. Et lorsque la vie vient bousculer ce personnage, la peur apparaît. Elle nous montre alors que notre manière habituelle de fonctionner ne suffit plus, que nous ne pouvons plus tout prévoir, que quelque chose nous échappe. Et bien souvent, c'est à cet endroit que nous tentons souvent de renforcer le contrôle. Mais un jour, au travers de différents événements vécus, un burn-out, une chute, une maladie ou autre, dans son intelligence, la vie nous invite à nous rencontrer en vérité, au-delà des masques, au-delà des injonctions, des conditionnements, au-delà de notre propre complaisance. Alors, c'est peut-être aussi à cet endroit, dans toutes ces situations de vie qui génèrent de la pression, des contractions, qu'un autre chemin devient possible. Dès l'âge de 2 ans, et de manière plus présente à partir de 7 ans. Alors qu'avant, le nourrisson vivait dans une totalité, en prenant conscience des contours de notre corps, c'est moi, c'est à moi. Petit à petit, nous faisons l'expérience de la séparation. J'aime voir dans cette transformation le moment fondateur de notre expérience humaine, celui où apparaît cette conviction profondément ancrée « Je suis ce corps, je suis ce mental ». À partir de là, une frontière semble se dessiner. D'un côté, il y aurait moi, mes pensées, mes émotions, mes croyances, mes désirs, mes histoires, et de l'autre, les autres, les événements, le monde, la vie. Autrement dit, nous commençons à vivre dans ce qui est appelé une double réalité. Une réalité intérieure, limitée aux contours de notre corps et de notre histoire. Ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ce que j'espère, ce que je pense devoir vivre, l'image que je me fais de moi, des autres et de la vie. Et une réalité extérieure qui semble exister indépendamment de nous. Ce qui arrive réellement, ce que l'autre fait ou ne fait pas, ce que la vie nous donne, ce qu'elle refuse, ce qu'elle transforme sans nous demander notre avis. À partir de ce moment-là, deux réalités vont continuellement se rencontrer et souvent s'opposer. Et c'est dans cette opposition entre ces deux réalités, dans cet écart, que naît la souffrance, l'illusion de se sentir séparé. Lorsque la réalité extérieure ne correspond pas à notre réalité intérieure, une lutte commence. Je veux que l'autre me comprenne, mais il ne me comprend pas. Je veux qu'il réponde à mes attentes, mais il n'y répond pas. Je veux être rassurée, mais je ne le suis pas. Je veux que cette situation cesse, mais elle est là. Je veux savoir ce qui va se passer, mais je ne peux pas le savoir. Je veux me sentir légitime, mais le doute est présent. Je veux être apaisée, mais la peur, la colère me traversent. Entre ce que je voudrais vivre et ce que je vis réellement, une distance apparaît. Et cette distance nourrit la frustration, l'impuissance, la déception, la lassitude, la colère, la tristesse, l'insatisfaction. Nous sommes alors tentés de croire que nous pourrons enfin nous détendre lorsque la réalité extérieure se conformera à nos attentes, lorsque l'autre changera, lorsque nous réussirons, lorsque nous aurons obtenu une réponse, lorsque le danger aura totalement disparu, lorsque nous ne ressentirons plus aucune peur. Et continuellement, nous recherchons des solutions, des modes d'emploi. Et nous restons enfermés dans ce rêve, celui de l'illusion de la séparation. À force d'avoir été conditionnés, nous nous sommes déconnectés du vivant. Mais si on se pose un instant, si on observe la vie tout autour de nous, on peut voir que la vie étant mouvante, elle ne peut pas nous garantir en permanence la sécurité, la reconnaissance, la fiabilité ou ce contrôle que notre personnage recherche. Alors, comment apprendre à décoder les signaux de la vie et retrouver un espace en soi de présence et de paix, sans attendre que toute la vie se conforme à nos désirs? J'aimerais te poser une autre question. Est-ce que notre véritable nature est associée au manque? Dans notre manière d'être au monde, nous vivons souvent comme si quelque chose nous manquait pour pouvoir enfin nous sentir complets. Il me manque la confiance, il me manque de la reconnaissance, il me manque une relation, il me manque une réponse, il me manque une preuve, il me manque du temps, de l'argent, du sens, il me manque encore cette compétence. Il me manque quelque chose pour pouvoir être pleinement moi. Bien sûr, nous avons des besoins humains, des aspirations et des désirs légitimes. Ici, il ne s'agit pas de les nier. Mais lorsque toute notre identité s'organise autour du manque, nous vivons constamment dans l'attente de quelque chose. Nous sommes ici tout en voulant constamment être ailleurs. Nous vivons cet instant tout en pensant que le suivant sera peut-être meilleur. Nous attendons de la vie qu'elle nous donne la permission de nous ouvrir. Et constamment, nous alimentons cette souffrance. Et sans cesse, nous vivons dans ce cercle vicieux. Nous cherchons à nous affranchir de notre souffrance, sans prendre réellement conscience que ce qui la cristallise, c'est le fait de vivre dans une conscience personnelle, une conscience qui s'identifie aux pensées, aux émotions, aux sensations, une conscience de manque qui a une particularité, être divisé en deux, avec une réalité intérieure et une réalité extérieure. Et une vérité intérieure, une vérité extérieure. Et si notre manière d'être au monde n'était pas une anomalie, mais une invitation à percevoir la vie autrement et à la rencontrer telle qu'elle est, en vérité. Ainsi, et si la peur n'était peut-être pas le problème, comme toute émotion, la peur est une information qui entre dans notre champ de conscience. Elle signale qu'une partie de nous perçoit un danger, réel ou imaginé. Elle peut nous inviter à la prudence, à poser une limite, à ralentir, à nous protéger. Mais elle peut également réveiller une mémoire ancienne, un conditionnement, une représentation qui n'est plus totalement adaptée à la situation présente. Dans les deux cas, la peur mérite d'être écoutée. Pas forcément crue, pas forcément suivie, mais rencontrée, reconnue et accueillie pleinement. Et nous avons souvent tendance à confondre « je ressens de la peur et je suis réellement en danger » ou encore « j'ai peur d'échouer ». Et je vais échouer. J'ai peur d'être rejetée et je serai nécessairement rejetée. La peur devient alors une vérité intérieure. Pourtant, une sensation, une émotion, n'est pas toujours une prédiction. Une pensée n'est pas toujours la réalité. Une émotion est un mouvement, une énergie qui nous traverse. Alors, comment sais-tu que ta peur veut dire réellement ce qu'elle dit ? Comment sais-tu que ta peur veut dire réellement ce qu'elle te raconte ? Comment le sais-tu ? Comment sais-tu qu'elle connaît l'avenir ? Comment sais-tu qu'elle dit toute la vérité ? Lorsque la peur est présente, revenir au corps peut être une première porte. non pour s'identifier davantage à la peur et à toutes ses manifestations, non pour se dire « je suis cette contraction », mais pour quitter quelques instants les histoires du mental et retrouver, vivre l'expérience directe. Où ta peur se manifeste-t-elle ? Dans la gorge ? Dans la poitrine ? Dans le ventre ? Dans les épaules ? Sous la forme d'une chaleur, d'un froid, d'un tremblement, d'un vide, d'une pression ? Peux-tu simplement observer cette sensation ? Sans chercher à la modifier, sans analyser son origine, sans lui demander de partir. Le corps devient alors un passage. Il nous permet de sentir ce qui est là, de la reconnaître, de l'accueillir et de rester avec. Et en restant avec les sensations présentes, le corps devient une porte vers un espace plus vaste que nos pensées, nos émotions et notre petit moi. Dans ce partage, je t'invite à un changement de paradigme. Et si ta peur, ta difficulté présente, était un point d'entrée, un cadeau pour renouer avec la vie? Nous avons souvent appris à considérer la peur, une difficulté, comme un obstacle. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Quelque chose qui montre une preuve que nous avons échoué ou que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Mais si chaque contraction ressentie au niveau de ton corps pouvait aussi devenir un point d'entrée, une porte vers une rencontre plus profonde avec toi-même. Cela ne signifie pas, bien sûr, rechercher la souffrance, ni rester dans une situation dangereuse ou destructrice. Cela signifie reconnaître que lorsque l'inconfort est déjà là, il existe peut-être une autre possibilité que la fuite ou la lutte. Rester avec. Non pas subir, non pas se résigner, mais demeurer présente, présent, disponible à ce qui se révèle. Car cette mécanique de rester avec vient progressivement dissoudre cet espace illusoire de séparation que notre personnalité entretient depuis si longtemps. Pour sortir de cette oscillation permanente entre notre réalité intérieure et la réalité extérieure, entre un jour c'est vrai, un jour c'est pas vrai, pour apaiser ce mental qui tourne en boucle, il ne s'agit pas de faire disparaître l'information. Il s'agit de rester avec elle. Lorsque nous restons avec une sensation sans la fuir et sans nous identifier totalement, quelque chose peut alors commencer à se déplacer à l'intérieur de soi. Dans un premier temps, il peut y avoir une amplification de la peur, de la difficulté. Mais en restant avec, comme la contraction, la sensation n'est plus enfermée dans un espace étroit, elle peut être ressentie au sein d'une présence plus vaste. J'aime utiliser l'image du verre d'eau et de l'océan. Lorsque nous vivons une peur uniquement à l'échelle de notre conscience personnelle, c'est comme si nous déposions une goutte de substance amère, une peur, dans un petit verre d'eau. Toute l'eau semble alors prendre le goût de cette goutte. La peur envahit tout notre espace. Elle devient alors notre réalité entière. Mais lorsque nous rencontrons cette même peur dans un espace de conscience plus vaste, élargi, c'est comme si cette goutte était déposée dans l'océan. Elle est toujours là, toujours présente. Elle n'est pas niée, mais elle n'a plus la même concentration, la même densité. Elle n'a plus la même saveur. La peur peut être là sans devenir la totalité de ce que tu es, sans occuper tout l'espace. Tu peux ressentir une contraction, une sensation inconfortable, une émotion, tout en demeurant relié à un espace plus grand, à cette conscience toujours présente. Tu peux avoir peur et continuer à respirer. Tu peux avoir peur et rester en relation. Tu peux avoir peur et poser un pas. Tu peux avoir peur sans te quitter. Il en est de même pour toutes nos émotions. Lorsque nous les vivons uniquement à l'échelle de notre personnage, qui vit la double réalité, réalité intérieure, réalité extérieure, elles prennent toute la place. Mais lorsque nous les accueillons dans cet espace beaucoup plus vaste qu'est la conscience toujours présente, celle dont parlent les physiciens, ce champ de conscience, elles retrouvent simplement leur nature. La peur redevient alors une information, la tristesse redevient une information, la colère redevient une information. Je t'invite à un autre changement de paradigme. Nous avons besoin de la contraction pour rencontrer l'ouverture. Cela peut sembler paradoxal. Pourtant, nous ne pourrions pas reconnaître l'ouverture sans avoir fait l'expérience de la contraction. Nous ne pourrions pas sentir l'espace sans avoir connu l'étroitesse. Nous ne pourrions pas goûter la détente sans rencontrer ce qui se tend. L'absence magnifie la présence. La contraction, la pression, une sensation difficile, n'est donc pas l'ennemi de l'ouverture. Elle peut en être la porte. Lorsque tu restes avec une peur sans chercher à la supprimer, tu découvres peut-être qu'un autre mouvement existe en dessous. Un mouvement plus profond que la réaction immédiate. Une intelligence qui ne cherche pas à tout contrôler. À partir de cet espace, la vie circule à travers toi, même si tu ne sais pas encore ce qui va arriver. C'est peut-être cela, rester ouvert, ouverte, être en paix. Ce n'est pas être constamment détendu. Ce n'est pas sourire à tout, ce n'est pas accepter l'inacceptable, ce n'est pas rester dans une situation qui te met en danger. Rester avec, c'est ne pas te fermer à toi-même lorsque l'expérience devient inconfortable. C'est ne pas laisser notre petit moi piloter notre vie en vivant uniquement dans la dualité, au travers des sensations, des pensées, et leur opposé. Nous oscillons souvent entre deux états. Un jour, nous nous sentons confiants, confiantes. Le lendemain, nous doutons. Un jour, nous nous sentons ouvertes, ouverts. Le lendemain, nous nous refermons. Un jour, nous croyons en notre projet. Le lendemain, la peur nous convainc que tout est impossible. Nous cherchons alors à revenir au plus vite vers l'état agréable. Mais peut-être que la liberté ne consiste pas à rester constamment du côté agréable. Peut-être consiste-t-elle à pouvoir traverser l'un et l'autre sans nous perdre. À rester en lien avec nous-mêmes, dans l'ouverture, comme dans la restriction, dans la contraction, dans la joie comme dans la peur, dans la clarté comme dans le doute. Lorsque nous cessons de dépendre d'un état particulier pour nous sentir vivantes, vivants, une stabilité différente peut alors émerger. Non pas une stabilité figée, mais une stabilité vivante, souple, capable de danser avec les mouvements de l'existence, capable de danser avec la vie. La survie cherche avant tout à éviter la douleur, éviter l'échec, éviter le rejet, éviter l'inconnu, éviter la peur. La vie, elle, ne nous demande pas d'éviter toutes les expériences. Elle nous invite à les rencontrer, à se laisser être éprouvés, à sentir. À agir lorsque l'élan est juste. Passer de la survie à la vie ne signifie donc pas ne plus ressentir de peur. Cela signifie que la peur n'est plus la seule à décider. Elle peut être présente sur le siège passager, mais elle ne conduit plus nécessairement toute la voiture. Tu peux l'écouter sans lui remettre les clés. Tu peux reconnaître ce qu'elle cherche à protéger, la remercier peut-être, et accueillir à chaque instant ce qui est là, présent. Cela demande de mobiliser une qualité particulière, la vigilance, l'attention à ce qui se vit. Cela demande de poser un autre regard et de commencer à regarder les événements de notre vie à l'échelle de la conscience, cette conscience toujours présente qui englobe toute la réalité. Cette conscience qui, elle, n'est jamais séparée de la vie. Alors, nos difficultés ne sont plus des obstacles sur notre chemin. Elles deviennent des prétextes, des invitations que la vie nous adresse pour retrouver le boum boum de notre cœur. Pour retrouver cette capacité d'adaptation qui est la signature même du vivant. Le cœur nous le rappelle à chaque instant. Il ne bat jamais de manière parfaitement régulière, il ne cherche pas la stabilité. Il épouse le mouvement. Quand c'est un cœur sain, un cœur vivant, je t'invite à écouter l'audio sur le cœur. Quand tu écoutes ton cœur, qu'écoutes-tu réellement? Car en vérité, lorsque nous disons « j'écoute mon cœur », qu'est-ce que nous écoutons réellement? Quelle est cette voix que nous croyons entendre? Oui, écouter son cœur, ce n'est peut-être pas apprendre à vivre sa vie, c'est apprendre à vivre avec la vie. C'est un véritable chemin d'humilité. Revenir au cœur ne signifie pas chercher une réponse parfaite. Le cœur n'est pas toujours une voix qui nous dit précisément quoi faire. Il est une qualité de présence. Un espace dans lequel nous pouvons accueillir à la fois notre vulnérabilité et notre élan, nos peurs et nos désirs de vivre. Lorsque nous revenons au cœur, à sa variabilité cardiaque, nous cessons de nous réduire à nos pensées, à nos histoires, à nos rôles, à nos peurs. Nous retrouvons simplement le mouvement de la vie, le souffle, la présence, le boum boum, ce mouvement qui nous montre la contraction et l'expansion de manière simultanée. Non pas comme une promesse que tout se passera comme nous le voulons, mais comme le rappel que nous sommes déjà vivantes, vivants, ici, maintenant. J'ai à cœur de te partager une invitation pour ton quotidien. La prochaine fois qu'une difficulté se présentera, je t'invite à essayer autre chose. Avant de chercher immédiatement une solution, avant de partir dans les scénarios, avant de te juger, prends un instant. Peut-être mets une main sur ton cœur, observe, écoute ce qui se contracte, ressens ce qui est là et rappelle-toi. cette difficulté est un point d'entrée pour renouer avec la vie. Un point d'entrée vers davantage de présence. Vers une rencontre plus authentique avec toi-même. Vers un espace plus vaste. Accueille ce qui est là et mobilise un mantra. Je t'invite à écouter l'audio pour vivre l'exploration. Un des deux mantras que je présente dans cet audio, c'est « tu dis ton prénom ». Ressentir cette peur sans en dépendre pour la ressentir. Et tu répètes ce mantra, ressentir cette peur sans en dépendre pour la ressentir. Et ce mantra se répète en silence ou à voix haute et dans l'observation. Un autre mantra que tu peux également répéter, prénom. Comment sais-tu que cette peur veut dire ce qu'elle dit? Prénom. Comment sais-tu que cette peur veut dire ce qu'elle dit? Et tu ne cherches pas de réponse. Tu laisses le mantra œuvrer à l'intérieur de toi. Tu laisses le mantra t'enseigner. Et s'il y a des émotions, des pensées qui s'activent encore plus, tu poses toute ton attention sur le mantra. Et je t'invite à mobiliser toute ton attention quelques secondes ou quelques minutes. Et peut-être sentiras-tu qu'à travers le fait de rester avec, de retrouver cette présence à toi, ton quotidien prendra peu à peu un autre mouvement, une autre respiration. Et maintenant, et si le problème n'était pas ta peur, mais le fait que tu te fermes lorsqu'elle est là? Et si la peur ne t'empêchait pas de vivre, mais t'invitait à rencontrer autrement la vie qui circule déjà en toi? Et si, au lieu de chercher à devenir une personne qui n'a plus peur, tu apprenais à devenir une personne qui ne s'abandonne plus lorsqu'elle a peur? Je t'invite simplement à laisser ces questions résonner en toi, à observer ce qu'elles viennent toucher en toi. Et si tu apprenais à devenir une personne, un être qui ne s'abandonne plus lorsqu'elle a peur? Et surtout, ne cherche pas de réponse immédiate. Peut-être que la réponse apparaîtra dans un moment très simple, lorsque tu respireras au cœur d'une contraction, lorsque tu choisiras de ne pas fuir, lorsque tu poseras un petit pas malgré l'incertitude, lorsque tu sentiras que la peur est là, mais que tu es encore là, toi aussi, bien vivante, vivant. Alors, prêt à te rencontrer en vérité, à suivre et explorer des chemins qui ont du cœur. Si tu sens que c'est le moment pour toi, à ne plus attendre que toute peur disparaisse pour commencer à vivre, à passer pas à pas de la survie à la vie et te sentir pleinement vivante, vivant, quels que soient les événements de ton quotidien. Je serai heureuse de cheminer à tes côtés. Et en attendant, je te souhaite une belle exploration.